Alors, il y a 15 jours, je pense il y a 15 jours, on a parlé des missionnaires qui sont partis à l'autre bout de la terre, qui ont offert leur vie en sacrifice pour que l'évangile parvienne là-bas. Et je sais pas vous, mais c'était enthousiasmant hein, de voir des âmes s'ouvrir à l'évangile, de voir des voilà qu'ils attendaient et puis qui se sont convertis et puis qu'ils ont exprimé si clairement ce qu'ils avaient compris, l'évangile. Et c'est beau de voir ça. Et on se dit, c'est vrai, si un informaticien comme notre frère André Touche, qui était dans notre église il y a quelques années, d'un seul coup s'est révélé être appelé pour devenir un missionnaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on se dit, mais pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi pas moi? Et oui, on peut être appelé. On peut être appelé aussi à devenir témoin et à partir loin et plaise à Dieu de vous appeler si c'est sa volonté. Il suffit qu'il y ait un cœur qui soit bien disposé et un cœur consacré, vraiment offert, qui veut vraiment faire toute sa volonté, même si c'est de rester ici ou de partir loin. Et à partir du moment où on est disposé à faire toute sa volonté, alors Dieu est libre de faire ce qu'il a envie. Mais vous savez, parfois nos yeux, ils partent à 10 000 kilomètres. Et il ne voit pas que Dieu peut-être m'appelle ici à servir, voilà, et à être utile ici, juste à côté. Pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour servir le Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, j'étais à une pastorale et il y a un pasteur qui partageait qu'il avait posé une question sur le comment les personnes s'étaient converties, donc à sa classe qui était devant lui. Il y avait une vingtaine de personnes, 21 personnes, et il leur a demandé, mais comment êtes-vous venu au Seigneur? Donc écoutez un peu les témoignages de chacun. C'était intéressant, une personne avait trouvé le Seigneur tout seul en lisant sa Bible. Une. Deux personnes avaient trouvé le Seigneur par le témoignage d'un inconnu. Et 18 personnes étaient venues au Seigneur par le témoignage d'un proche. La famille, les amis, un voisin, un collègue, une connaissance juste à côté avec qui il y a eu un lien plus personnel. Et ça nous montre certainement une chose, c'est que on ne devrait pas se focaliser uniquement et dans la pensée sur les témoignages de l'inconnu, mais sur le témoignage de ceux qui sont juste là, à côté de nous, tout autour. C'est eux qui peuvent venir au Seigneur, premièrement. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque semaine, on croise des personnes qui n'ont pas le Seigneur, des personnes que nous connaissons, à qui nous pourrions donner soif de connaître Jésus, et on ne s'en soucie pas toujours. Alors bien sûr, je citais famille, voisins, amis, collègues, mais j'aimerais particulièrement parler ce matin des enfants, et spécifiquement de nos enfants, c'est-à-dire de nos enfants dans l'Église. Vous savez que très peu de nos enfants, là-haut, sont au Seigneur Jésus. Très peu sont vraiment sauvés, sont sûrs d'avoir la vie éternelle, d'être pardonnés de leurs péchés. Et ce n'est pas parce que certains sont dans une famille chrétienne que ben, voilà, tout va bien, elles seront sauvées sans aucun doute. Beaucoup sont loin du Seigneur, ils ne sont pas encore dans la bergerie, ils ne sont pas encore en sécurité. Et on les croise tous les dimanches, pratiquement tous les dimanches. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on les a à cœur? Est-ce qu'on se soucie d'eux? Est-ce qu'on a seulement prié une fois pour eux déjà? Est-ce qu'on a seulement prié une fois pour les enfants? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on connaît leur prénom à chacun? Ils ne sont pas 100, hein? Est-ce qu'on connaît leur prénom à chacun? Et vous savez, la tendance naturelle chez l'homme, c'est de ne regarder qu'à son niveau, à sa hauteur. Voilà, ce qui est son semblable en fait. Hein. Et puis, nous, on regarde en plus vers le ciel. C'est le côté spirituel. On a une relation avec Dieu, hein, une communion avec Dieu. Et parfois, on oublie qu'être proche du Seigneur, eh bien, c'est peut-être baisser aussi les yeux et regarder le plus petit que soi. Je suis allé dans ma famille, donc pour les obsèques. Et j'ai retenu une phrase dans les conversations au sujet d'un de mes grands-pères. On disait de lui donc que dans le passé, quand ses enfants étaient enfants, hein, eh bien, ils n'avaient pas le droit à la parole. C'était voilà, les enfants, ils se taisent, ils restent dans un coin et on veut pas les entendre. Hein, on veut pas les entendre. Il n'y a pas si longtemps, voilà, il faut remonter quelques siècles ou décennies même, hein, les enfants, ils mangeaient après, hein, avec l'épouse. D'abord, on servait l'homme, et puis après, le reste de la famille. Et dans d'autres cultures, c'est encore aujourd'hui, hein, c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de basculer, comme ça s'est passé il y a quelques décennies, dans l'idée de l'enfant roi, voilà, le prince à qui il ne faut rien dire, etc., et l'adulé presque. Mais on peut maintenir inconsciemment une attitude où l'enfant, il n'a pas sa place. L'enfant, il dérange. Il n'a pas notre intérêt, c'est quantité négligeable. Ce qui est important, c'est l'adulte qui est à mon niveau. C'est lui qui compte en premier. Et ce n'est pas forcément réfléchi. On n'y pense pas, en fait. Hein. C'est comme ça. J'aimerais prendre un texte avec vous, Matthieu 18, hein, et on va lire verset 2. Matthieu 18, verset 2, d'abord jusqu'au verset 6. Texte que vous connaissez. Matthieu 18, 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Et je vais juste sauter quelques versets, on va lire versets 10 à 14. Il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. » Quand on lit ce texte, on voit la valeur que Jésus attribue à l'enfant. Pendant qu'il dit toutes ces choses, il y a ce petit enfant qui est là au milieu d'eux. Hein. Il vient le prendre et il l'a mis au milieu pour que, eh bien, il le regarde. Peut-être il a sa main sur l'épaule. En tout cas, dans ce texte, on ne dit pas grand-chose. On verra un autre texte où on voit un peu plus. Mais voilà, l'attention est fixée sur ce petit enfant qui est au milieu d'eux. Et il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » C'est si facile de mépriser un enfant. « Allez, pousse-toi, papa, allez, tu gênes là, hein ?» C'est si facile. C'est finalement ce que faisaient les pharisiens. Hein. On lit dans Matthieu, je vous le lis, « Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses que Jésus avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Indignés, mais c'est pas possible quoi. On laisse la parole à des enfants, on les laisse crier librement. Non. Qui se taisent, ils n'ont rien à dire. Alors c'est possible qu'un enfant, c'est vrai, fasse du bruit, notamment dans la première partie. Là, maintenant ils sont dans leur classe. Et parfois ça nous est insupportable, hein, ça nous irrite. Hein. Bien sûr, les parents doivent faire leur possible, hein, pour éduquer leur enfant, pour prendre soin de lui, pour lui apprendre justement à aussi s'asseoir sur une chaise et attendre. Hein. Et c'est une très bonne école, hein, que d'être patient et de savoir se taire. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a une crèche. C'est justement pour que les enfants en bas âge, hein, puissent avoir un lieu où voilà, on les entend, ils chantent, ils s'expriment, ils crient, ils jouent, ils font du bruit. Mais il ne faut pas être comme les pharisiens, dès qu'il y a un bruit dérangeant, oulala, on jette un regard noir, c'est pas possible ça. Les enfants ne dérangeaient pas Jésus. Et on peut oublier que ce sont des personnes. Ce n'est pas des demi-êtres humains ou des demi-personnes, c'est des personnes. Et comme nous, hein, exactement comme nous, elles sont pleines et entières avec des sentiments, avec des émotions, avec une sensibilité, une intelligence, une mémoire. Ils retiennent les enfants. ils retiennent. Et un enfant, il peut recevoir un coup d'un adulte, une parole méprisante, et ça le marque à vie. À vie. Et parfois, il peut recevoir un coup d'un chrétien, et ça le marque à vie. C'est terrible. Et ce n'est pas droit devant le Seigneur, surtout pas ce que Dieu veut. Il faut savoir qu'on a des enfants, bien sûr, de familles qu'on pourrait dire stables, équilibrées, il y a les deux parents. Et puis il y a des enfants issus de familles monoparentales, divorcées, ou socialement, psychologiquement en souffrance. Donc c'est des brebis déjà blessées par la vie. Elles n'ont pas choisi, c'est comme ça. Comment nous on les accueille ici au sein de notre famille, de notre famille. Et c'est bien de penser à l'évangélisation du monde, mais il faut peut-être penser à l'évangélisation de nos enfants, en fait. Hein. Ils sont là, juste à côté de nous. La centième brebis égarée dont Jésus parle ici, c'est cet enfant qui est là au milieu d'eux, alors qu'il est en train d'expliquer toutes ces choses. C'est elle, la centième brebis. Il parle de cet enfant. Verset 14, il conclut, « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde, un seul de ses petits. » Selon certaines statistiques, on ne sait jamais si les statistiques sont parfaites, mais en tout cas, elles montrent clairement quelque chose, une ligne hein, qui ne peut pas être absolument fausse. Hein. 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans. 86% avant l'âge de 15 ans. C'est fort, hein? C'est fort. Hein? Donc la possibilité que les enfants deviennent chrétiens et nos enfants est immensément plus grande que l'inconnu qui passe dans la rue. Et Dieu dit qu'il ne veut pas qu'un seul se perde. C'est pour ça que les enfants devraient être ceux sur lesquels on met le plus d'accent, ceux dont on se soucie le plus, ceux qui nous dérangent le moins. Et je m'enseigne moi-même, hein. Je me fais du bien à moi-même, vous savez, moi aussi, hein, j'ai pu pousser un enfant parce que j'étais focalisé sur un adulte, hein, c'est possible. Alors on est heureux. Et on est heureux de ces classes maintenant fonctionnelles, accueillantes, lumineuses, ce qui ne gâche rien, pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Ils ont leur espace. Par la grâce de Dieu, ils auront bientôt une cour sur le toit aussi pour pouvoir monter après le culte ou pendant les repas fraternels. Et certains passent des heures et des heures, et je le vois, à préparer des leçons. Et ensuite, d'autres passent des heures et des heures pour préparer au fait de donner la leçon. Hein? Et voilà, et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Pourquoi ? Pour qu'il y ait un verset, un exemple, une leçon d'objet, quelque chose qui va venir s'ancrer dans le cœur de l'enfant et porter du fruit à salut. Ils y travaillent. C'est là que les enfants peuvent ressentir l'amour de Dieu. Ressentir « on m'aime ». Vous savez ça, ça n'a pas de prix. Ça bouleverse. Hein? « On m'aime ». J'ai envie d'y être parce qu'on m'aime. Et puis, j'apprends à aimer. J'apprends que Dieu m'aime, que je peux aimer Dieu, et que Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Imaginez l'enfant. Il redescend de sa leçon. On lui a appris que l'amour, il faut s'aimer les uns les autres. Allez, pousse-toi! Bouge-toi, là! On le connaît pas. On sait même pas son prénom. Et il nous dérange. On dit bonjour aux adultes et on oublie la petite brebis du Seigneur, là, qui est une petite âme, pleine et entière. Matthieu 19, 13. Matthieu 19, 13, il dit « Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. » Imaginez, c'est votre enfant, c'est vous qui l'amenez à Jésus. pour que Jésus prie et bénisse votre enfant. Et les disciples, ah non, 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 stop, il y a un service d'ordre. Hein. Et Jésus, il s'occupe que des adultes. Les enfants, c'est... Attendez qu'ils grandissent. Hein. Verset 14, mais Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Quand on prend le passage parallèle dans l'évangile de Marc, il est dit que Jésus fut indigné. Indigné de ce qu'ont fait ses disciples. Ce n'était pas acceptable. Parce que les petits, ils ne comptent pas pour rien. Et on voit combien, pour Jésus, les petits avaient autant de place que les adultes. Quand les disciples regardaient à l'horizontale, lui, Jésus, il regardait, il voyait... le petit enfant qui était par terre. Et c'est vraiment touchant de voir cette sollicitude. Et voilà, il sait tout, il voit tout, il connaît tous. Et combien on a besoin aussi, peut-être, de faire des progrès dans cela. Aussi, chacun qui participe à l'école du dimanche fait des efforts. Hein. Ils prennent du temps et voilà. Il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prie pour eux. Que Dieu leur donne la force, la grâce, la puissance, l'esprit, la liberté, qu'ils sachent communiquer. Hein. C'est important pour Dieu. Ce moment est important pour le Seigneur parce que Dieu veut les toucher, il veut leur parler. Aussi, si vous voulez une fois assister à une école du dimanche, vous pouvez demander à Kimberly... et vous pourrez assister, voilà, voir un peu, apprendre et puis être aussi édifié. Pourquoi on peut avoir une mauvaise attitude à l'égard des enfants? Comme je le disais, ce n'est pas toujours raisonné, ce n'est pas toujours réfléchi, c'est même souvent inconscient. Mais c'est peut-être bien de se poser des questions aussi, essayer de remédier à des habitudes ou des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur et qui pourrait changer. Vous savez, on le sait tous, la construction dans l'enfance est très importante. Hein. Après, pour la vie adulte, on dit que dans les 6 premières années, c'est vraiment très, très important. C'est là où toute la personnalité hein, se forme, se construit. Quand l'enfant a le bonheur d'avoir un bon modèle parental, avec des parents qui l'aiment, avec des parents qui le valorisent, qui l'encouragent, qui l'accompagnent. Sa construction intérieure, elle se fait aussi grâce et par ce modèle. Et aussi, avec un bon modèle, eh bien, il y a toutes les chances qu'après l'enfant, il reproduise le bon modèle. Il redonne à ses enfants ce qu'il a reçu. Mais le contraire est aussi vrai. Et parfois, on peut vivre des choses difficiles dans l'enfance avec ses parents ou avec l'absence de ses parents ou d'un parent, on peut subir des blessures, par exemple vivre un manque d'amour, vivre de l'injustice, être victime d'un favorisme familial, ou vivre de la maltraitance qui va laisser des traces. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a derrière. Hein. Mais le malheur, c'est qu'on voit qu'on peut reproduire inconsciemment ce que l'on a vécu dans son enfance. Et si c'était pas bien, eh ben on va reproduire des choses qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien. On a été méprisé et rejeté et on va se mettre à mépriser et rejeter ou avoir une attitude qui n'est pas belle. Maintenant, la reproduction du schéma familial, elle n'est pas automatique, bien sûr. Mais il faut être vigilant. Il faut se dire attention, attention. Parfois, c'est aussi vrai dans le rejet du modèle parental qui peut nous conduire aux antipodes. Par exemple, une famille qui vit dans la pauvreté, des choses difficiles, l'enfant il peut partir aux antipodes dans une course effrénée à l'argent et au succès parce que voilà, il y a un rejet de ce qu'il a vécu. Ou bien la richesse et l'opulence peut aussi conduire à un rejet du confort et un rejet finalement de tout ce qui rappelle cette vie qu'il rejette. Alors, je suis pas psychologue, hein, mais si le Seigneur met en lumière quelque chose, eh bien, c'est peut-être parce qu'il veut qu'on progresse, il veut qu'on change, qu'on apprenne de ses erreurs. Peut-être qu'on recherche de l'aide aussi, de quelqu'un de compétent qui peut nous aider. On n'a pas tous vécu des enfances idéales, parfaites, équilibrées, mais il y a un grand changement qui se produit quand on vient au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être on n'a pas tout reçu, ce qu'on aurait dû recevoir, mais si Dieu est entré dans notre vie, alors il vient pour guérir nos blessures. Il vient pour nous guérir. Nous, on ne sait pas humainement, nous les hommes, on ne sait pas guérir l'âme. On ne sait pas refermer la plaie et passer le baume comme il faudrait. Mais Dieu, lui, il sait faire ça. Il est capable de cicatriser, il est capable de guérir. De la même manière qu'il guérissait des personnes qui étaient des plaies humaines dans la souffrance physiquement, il les guérissait. Eh bien, Dieu peut guérir les souffrances intérieures, peut guérir les plaies qui sont ouvertes, béantes et qui vous font souffrir. C'est possible. Il y a un livre très édifiant qui s'appelle « Dory, l'enfant que personne n'aimait ». Je ne sais pas si quelques-uns l'ont lu, probablement. J'aimerais juste vous lire les premières lignes de ce livre. C'est très court. Hein. « Sur la pointe des pieds, je m'approche de la fenêtre. Mon regard plonge dans les ténèbres. Je suis des yeux les phares de chaque voiture qui passe dans la rue. Je grimpe sur la chaise de bois brun et je m'y recroqueville tant que je peux pour avoir chaud. Les heures s'écoulent. Enfin, là-bas, à l'angle de la rue, j'aperçois la silhouette de ma mère. Elle remonte l'allée. Tandis qu'elle gravit l'escalier qui mène à notre appartement, au second étage, je traverse la pièce à tâtons à sa rencontre. J'espère qu'elle sera contente de me revoir. Mais comme d'habitude, elle passe rapidement à côté de moi et prend dans ses bras ma sœur Marie. « Chérie, comment vas-tu ?» lui susurre-t-elle. Moi, les mains enfouies dans les poches de mon vieux tablier, j'attends. J'attends un geste, un mot d'amour. Ma mère m'écarte. « Que veux-tu, toi ?» demande-t-elle aigrement. Elle me repousse. « Va-t'en. » Je n'ai que 6 ans. De telles scènes se répètent si fréquemment qu'elles finissent par se graver dans ma mémoire. Voilà, il y a des vies... C'est difficile, hein, et il faut lire la suite du livre. L'enfant que personne n'aimait. C'est une souffrance, hein, ne pas être aimé ou pas aimé comme il faudrait. Et l'histoire vraie de cette petite fille se termine merveilleusement bien, parce qu'elle va être aimée de son Dieu. Premièrement, hein, elle va découvrir que Dieu l'aime. Voilà. C'est comme, je pensais, c'est pareil pour, vous savez, celui qui était dans le Bronx, là, comment il s'appelle ? À New York. Nicky Cruz. Ben, c'est pareil. Il pensait qu'il n'était pas aimé, lui. Pas aimé. Et il va être brisé par l'amour de Dieu. Et Dory va se sentir aimé. Et Dieu va lui donner un mari aimant. Et ça va tout changer. Tout changer. Elle va guérir. Dieu peut nous guérir vraiment de nos plaies. Mais Dieu aussi entre dans notre vie pour nous transformer par sa parole. C'est vrai qu'on n'a pas forcément reçu des bons modèles. Moi, parfois j'envie, hein, quand je vois un couple chrétien, de plusieurs générations de chrétiens, qui ont reçu un modèle merveilleux et qui reproduisent ça vis-à-vis de leurs enfants. Vous savez, quand vous n'avez pas de modèle, ben vous essayez de faire, hein. C'est sûr, hein. Voilà, on essaye de faire au mieux. C'est beau. On n'a pas tous reçu un bon modèle. Peut-être nos parents ont fait beaucoup d'erreurs par ignorance ou par incrédulité, parce qu'ils n'étaient pas croyants, ou à cause du péché aussi, hein. Parfois même des croyants qui ont péché. Et c'est lourd, hein. Mais le Seigneur veut être notre modèle, notre guide maintenant. Et il est avec nous par son esprit, justement, hein, pour essayer de ne pas reproduire ce qui n'était pas bien. Et au contraire, pour prendre modèle sur lui, le modèle d'un père ou d'une mère vraiment aimant. Lui, c'est le meilleur des pères. Donc, si on veut, Seigneur, comment dois-je me comporter? Mais lui est le modèle. Si je vis de lui et par lui, je serai un bon père. Ou bien, je vais devenir un homme ou une femme qui sait aimer mon prochain, qui sait aimer l'autre, qui sait aimer l'enfant, même qui n'est pas de ma famille, mais qui va l'aimer de la bonne manière. Les enfants sont la génération future. Si Dieu nous les confie, eh bien, il veut qu'on les aime et on les conduise vers le bon berger. Tout à l'heure, on a lu que Jésus a dit « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » C'est fort, ça, hein ? Recevoir un petit enfant, l'accueillir comme si c'est Jésus, c'est recevoir, c'est accueillir Jésus. Alors, on est d'accord pour l'enfant qui ne fait jamais de bruit au cul, qui est bien sage sur sa chaise et qui ne dérange personne. Mais pour la boule d'énergie là, qui s'excite, qui irrite, difficile, hein ? Jésus n'a pas parlé d'un enfant sage. Il a dit un petit enfant. Point. Le petit enfant. Et c'est sûr que parfois, on peut avoir des enfants qui ne reçoivent pas une bonne éducation. C'est possible, hein ? Qui n'ont aucun modèle aussi, aucun tuteur. Ils ne savent pas. Mais justement, ils viennent pour recevoir ce qui est bien ici. C'est ça qui est important. Et le Seigneur nous demande de les accueillir comme lui-même. Et c'est bien lorsque des enfants viennent dès le plus jeune âge dans l'assemblée, parce qu'ils apprennent très tôt que finalement l'Église, c'est une extension de la famille. Ils ont leur famille dans la chair, mais ils ont une famille plus grande qui est l'Église et qui les aime, qui les accueille, qui les entoure, qui se soucie d'eux, qui leur parle, qui leur pose des questions, qui les prend peut-être sur les genoux. Vous savez, Jésus a pris sur les genoux. C'est touchant, hein ? C'est touchant. C'est ce qu'on lit dans l'évangile de Marc, Marc 33 à 37, on peut le lire, Marc 9, 33 à 37. Les disciples arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Donc, on voit ce petit-enfant ici, Jésus le prend sur ses genoux. Il y a la parole, mais il y a aussi le geste qui montre la vérité, en fait, hein, de l'amour de Jésus pour cet enfant. Dieu aime les enfants. Un petit peu plus loin, on lit « Il le prit dans ses bras. » Il les prit dans ses bras. » Ici, c'est un autre passage. « Et les bénit en leur imposant les mains. » Donc là, on voit plusieurs enfants. Il les prend les uns après les autres, de chaque côté dans ses bras. Il prie pour eux. Il les bénit. Pourquoi ? Parce que, voilà, il veut le meilleur. Il veut les plus belles choses dans la vie de ses enfants. Que chacun le connaisse. Et c'est notre part aussi, de prier pour les enfants, de les remettre et dire « Seigneur, sauve-les, bénis-les, fais-leur du bien, fais-leur du bien. » Et si on prie tous, vous imaginez, on prie tous pour les enfants, mais les enfants vont se convertir. Ils vont se convertir, ils vont venir à Jésus. Alors bien sûr, ça n'enlève rien à la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Quand vous prenez Deutéronome, connaissez ce passage où il est dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et c'est certain que si on est chrétien, ben on a aussi cette responsabilité de communiquer, hein, de parler du Seigneur Jésus. Chaque parent a sa part pour parler du Seigneur et vivre le Seigneur Jésus dans son propre foyer. Mais que les parents le fassent ou ne le fassent pas, par négligence, par incrédulité parce que ben, ils ne croient pas, ou par ignorance, notre part à nous, c'est en tout cas de les entourer, de les aimer, de leur prêter attention, de les accueillir, chacun, petit enfant, enfant, et je vais plus loin, adolescent, les accueillir et les aimer. Il faut retenir ce nombre, hein, 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans. 86%. Donc le chant, ben, il commence ici, il commence au milieu de nous, dans l'assemblée.